Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci pour votre fidélité à l'économie en direct sur IDFM Radio. Engagement au service du territoire, qu'il soit politique ou entrepreneurial, aujourd'hui vendredi 3 octobre 2025, découvrons cette complémentarité à travers mes deux invités du jour et que j'ai le plaisir d'accueillir. Madame Djida Djalali Tektak, maire de Villiers-le-Bel depuis septembre 2024 et depuis 2015 conseillère départementale du Val d'Oise. Bonjour Madame le maire.
Bonjour Jacqueline, merci pour votre invitation. Bonjour à tous.
Merci à vous. Très heureuse de vous accueillir dans nos studios et faire que nos auditrices et auditeurs fassent plus ample connaissance avec vous, à la fois en tant qu'élue, mais aussi et surtout en tant que femme engagée et de terrain. À vos côtés, David Molina, président de la société IM Agency. Bonjour David.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour. Ravie de vous accueillir chez IDFM Radio et découvrir les nouveautés d'Image Agency pour nous permettre de découvrir un nouveau monde. Bienvenue à tous les deux.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et tout de suite, je m'adresse à vous, Madame le maire. Est-ce que vous m'autorisez à vous appeler par votre prénom, Djida? Merci, chère Djida. Alors, vous êtes une figure engagée de Villiers-le-Bel avec une attention particulière portée à l'humain et aux responsabilités territoriales. Pourriez-vous vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs?
Alors, donc je suis maire de Villiers-le-Bel depuis le 6 septembre dernier, donc ça fait tout juste un an. J'ai succédé à Jean-Louis Marsac qui a souhaité donc mettre fin à ses fonctions de maire. Je rappelle qu'il est toujours au conseil municipal auprès de nous et puis il est vice-président à Roissy, Pays de France. Mais auparavant, moi je le dis souvent dans mon parcours, je suis un produit de la parité puisque mon premier engagement politique fut en 2001, la parité dans les villes de plus de 20 000 habitants.
C'est ça, en préparant cette rencontre, je me suis plongée dans votre histoire et j'ai pu voir que vous revendiquez l'héritage de Didier Vaillant et la parité. Alors la parité d'abord. C'est cette transition vers la parité en politique, notamment avec la loi 2000 de 2000 qui a ouvert la voie à votre élection en tant qu'adjointe, puis maire. Et vous avez évoqué le passage de l'ombre à la lumière en devenant élue. Aujourd'hui, pensez-vous que sans cette loi, vous n'auriez pas eu le même parcours ?
Ah mais absolument, je le dis très souvent lorsque je fais un peu de la promotion en incitant les jeunes filles à s'engager politiquement et les jeunes d'une manière générale, je leur dis souvent que s'il n'y avait pas eu la parité, moi je ne serais pas devant vous. Après, on est venu me chercher en 2001 parce qu'il fallait compléter les listes, il fallait faire sortir certains hommes pour faire de la place aux femmes. J'étais plutôt en fin de liste et puis après j'ai succédé à des fonctions en tant que maire adjointe en 2008.
Et alors, depuis, est-ce que vous avez eu des doutes? Est-ce que vous les avez surmontés pour en arriver là? Et je sais aussi que vous pratiquez la boxe. Donc, comment la boxe que vous pratiquez assidûment vous aide à rester déterminée face aux défis?
Après, au-delà de la boxe, j'ai toujours été très déterminée. Depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours battue. Ma première association, je l'ai montée à l'âge de 17 ans. Avant d'être valdoisienne, je suis aussi lorraine de cœur. Je viens de la Moselle. Donc, ma première association fut à l'âge de 17 ans et c'était toujours me battre pour que les filles, les jeunes filles que j'étais à l'époque puissent trouver sa place. Et ensuite, oui, la boxe aujourd'hui, en tant que mère, elle m'aide sincèrement à vider cette charge mentale. On le dit jamais assez, on parle souvent de charge mentale dans notre pays aujourd'hui, mais la charge mentale que vivent les élus d'une manière générale, elle est colossale. Je me vide de ma tête et je cogne un peu sur avec mes gants, et puis ça m'ouvre aussi un réseau autre avec des sportifs, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, donc voilà.
Vous parlez de charge mentale, donc oui, des élus, mais aussi des femmes hein, qui ont plusieurs casquettes. Désolée, David et Francky, de faire un peu de féminisme, d'autant que vous êtes également chef d'entreprise, Madame le maire.
Absolument, cette charge mentale, lui, je le disais pour les élus, mais c'est d'une manière générale pour les femmes, lorsqu'on porte... Moi, je dis souvent, mon engagement politique, c'est aussi... nous, on vient, on est au conseil municipal, mais quand on rentre le soir, on met pas les pieds sous la table. Hein, c'est vraiment l'expression. On a une autre casquette qui est celle de maman, qui est celle de l'épouse ou celle de la dame qui porte le foyer. Donc, la charge mentale et puis la vie professionnelle. Oui, effectivement, moi, j'ai monté une société, j'ai toujours été entrepreneuse dans l'âme, mais ma dernière structure qui fonctionne plutôt bien, donc j'ai monté une structure de maintien à domicile sur la ville de Survilliers et j'en suis plutôt fière. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps à y consacrer, mais la structure, elle est organisée, elle continue à vivre et ça se passe plutôt bien. J'ai des collaboratrices à qui, d'ailleurs, je fais un petit coucou si elles écoutent l'émission, pour lesquelles j'ai pleinement confiance et qui, on est dans l'humain, c'est véritablement ça, donc ça se passe très très bien, j'ai totalement confiance en elle.
Oui, tout va bien. Vous êtes, j'imagine que vous êtes une femme très organisée. La semaine dernière, je recevais une autre femme, maire d'une commune du Val d'Oise, Moisselles, pour ne pas la citer, et nous avons évoqué ensemble le fait que pour une femme en politique, c'est de toutes les façons toujours plus compliqué. Vous le confirmez ?
Absolument, c'est toujours très compliqué. C'est se dire je fais ma place. Il faut se battre en permanence. Il faut se battre. On le disait avant cette émission, c'est la place qu'on fait aussi aux femmes. Mais je dis surtout aux femmes. Prenez votre place, on ne viendra pas vous chercher. Faire sa place, c'est... par exemple, ce que je vis, c'est... On va me tutoyer plus facilement qu'un homme. Je reprends régulièrement des personnes en disant... je subis des petites réflexions qu'on n'aurait pas faites à l'époque à un homme maire. Moi, je subis le tutoiement, à m'appeler par mon prénom. Et puis, manière générale.
Une plus grande familiarité qu'on n'a pas forcément avec les hommes.
Qu'on ne le fait pas avec les hommes du tout. Il y a vraiment cette distance. Et c'est un vrai... C'est un sujet, oui.
Je m'adresse à David Molina. Vous avez conscience, vous, de cette différence entre les hommes et les femmes dans le domaine politique ? Enfin, pas que, mais particulièrement dans le domaine politique ?
Oui, je crois que c'est assez évident en soi. Après, le fait qu'il y ait eu des lois pour la parité et aussi le fait que les femmes abordent souvent les projets avec une approche qui est beaucoup plus féminine des sujets, ça peut aussi être un vrai argument, un vrai levier, entre autres parfois... quand il y a des conflits, tout simplement, puisque les hommes ont parfois des sujets d'égo plus faciles ou plus importants que les dames. Et donc, effectivement, le fait d'avoir ajouté à la politique une dimension féminine, une approche féminine des sujets, peut parfois apporter des résultats qui sont beaucoup plus pragmatiques aussi, et aussi beaucoup plus soft, on va dire.
Oui, c'est-à-dire ça change le paysage de l'environnement dans lequel on évolue, il me semble.
Mais ça change, mais surtout on porte de vraies politiques publiques. Enfin aujourd'hui, sur il y a quand même des sujets sur la dette écologique, la dette sociale aujourd'hui.
On va en parler.
On parle de la dette financière en ce moment un peu nauséabonde, mais on oublie l'écologie, on oublie la jeunesse, on oublie l'écologie dans le sens propre du terme. Et tout cela, les femmes, elles ont aussi des sujets à dire.
Alors, parmi vous dites que vous êtes maire depuis un an, mais depuis un an, vous n'avez pas, on vous voit sur tous les fronts. Quelles ont été vos priorités, vos actions pour Villers-le-Bel quand vous êtes arrivé ?
Alors mes priorités, donc j'étais sur le précédent mandat, donc première adjointe, j'avais en charge les finances et puis une très belle mission qui me tient à cœur, l'égalité femmes-hommes sur la commune, ça a été de continuer, on avait pris un engagement sur la mandature de créer une maison des femmes. Donc on a inauguré au mois de mars l'année dernière, cette année pardon, 2025, et puis tout de suite j'ai mis les mains dans le cambouis. C'est une école dont la toiture menaçait de s'effondrer, il faut relocaliser les enfants, une école de 22 classes, donc il fallait repositionner les 22 classes puisqu'il fallait fermer complètement l'école. Là on est en capacité, les femmes, de porter aussi ce genre de choses, bien évidemment avec les services, avec l'éducation nationale. Ça a été vraiment l'une de mes je suis élue le 6 septembre, le 10 octobre je ferme une école. Donc 22 classes, il fallait repositionner, il fallait continuer surtout à ce que nos enfants puissent continuer d'aller à l'école.
Bien sûr. Et donc vous avez mis le turbo pour donc il y a eu donc la maison des femmes, le parc agro-urbain, mais on y reviendra peut-être au niveau de l'écologie de l'écologie, un écoquartier également. Vous avez fait la reconversion de l'hôpital en écoquartier et de telle sorte que Villiers-le-Bel semble même être un laboratoire aujourd'hui.
Exactement. Notre ville, bien heureusement, elle a été très très souvent un laboratoire de que ce soit d'égalité, que ce soit sur le parc agro-urbain. Effectivement, on a un hôpital, une friche hospitalière qui aujourd'hui va être aménagée autour d'un éco-quartier. Donc il y aura du logement à l'accession, du logement en LLI, donc en location libre. Une toute petite opération de logement qu'on va social, c'était des accords, donc on va repositionner. Mais j'ai aussi volontairement, donc on a un groupe scolaire et j'ai surtout très fière d'annoncer qu'on aura normalement une résidence pour étudiants.
Ah, très bien. Bon, alors on va parler de la jeunesse là, dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des réalisations dont vous êtes la plus fière depuis votre élection ?
Moi, vous savez, je suis tellement tellement engagée tous les jours. Je dirais notre fierté, c'est aujourd'hui les projets avancent. On a une, vous savez, la ville de Villiers-le-Bel était constituée en plusieurs quartiers. Aujourd'hui, on n'en fait plus qu'une. Avec en plus l'arrivée du parc agro-urbain, c'est l'avancement du projet du village qui va transformer notre ville à horizon à une dizaine d'années. C'est le parc DLM, PLM. C'est toute la transformation dont je suis extrêmement fière, que je dois aussi, hein, bien évidemment, parce que c'est des grosses opérations qui se travaillent sur une dizaine d'années, à Didier Vaillant, à qui je rends toujours hommage, et puis à Jean-Louis Marsac qui a porté tout cela et qui continue à porter tout ça aussi à travers l'intercommunalité.
C'est ça, Didier Vaillant, dont vous dites que c'est votre mentor. Est-ce qu'il vous a, son héritage vous a aidé dans la gouvernance ?
Son héritage, c'est surtout, je me dis souvent, vous savez, quand vous l'avez dit tout à l'heure, parfois on doute. Moi, j'ai beaucoup douté. Il y a eu des moments de doute où j'avais envie de tout laisser tomber. Et je me retrouvais avec Didier en me disant sa petite phrase qui me marquera à vie, c'est baisse la tête et avance gentiment. Mais voilà. Et on ne baisse pas les bras, mais baisse la tête, mais tu vas y arriver. Dans des moments de doute. Donc Didier, il est toujours là.
Il est toujours avec vous, quelque part. Madame le maire, un peu de musique avec Tal, Le sens de la vie, une chanson qui, je trouve, correspond bien avec votre parcours. À tout de suite.
J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas. Sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux. Et je sors ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Sans contresens, on se perd toujours. Quand on fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Engagement territorial, c'est le programme de l'économie en direct ce matin sur notre média, en compagnie de Djida Djalali Tektak, maire de Villiers-le-Bel et conseillère depuis 2015 départementale du Val-d'Oise, David Molina, président de la société IM Agency. Madame le maire, on a bien compris que vous étiez, je l'ai dit en début d'émission, que vous étiez sur tous les fronts. Donc vous nous avez dit que vous étiez chef d'entreprise. Comment vous arrivez à équilibrer vos différentes activités?
Alors, je voudrais juste faire un. Alors, c'est pardon, Jacqueline, c'est
je vous en prie.
Tèche-tâche.
Pardon, excusez-moi.
Bon, il n'y a pas de mal. Excusez-moi. Et surtout, au département, j'ai fait un mandat. Je ne suis plus conseillère départementale. Ah. J'ai fait 2015-2021.
Ah, j'ai tout
donc,
faux.
Voilà. Non, mais c'est pas grave. comment j'arrive? Tout simplement, aujourd'hui, j'ai pris la décision depuis septembre 2024, donc depuis mon élection. Je ne peux plus, vraiment, mes fonctions de maire ne me permettent plus d'aller travailler. Je fais un saut une à deux fois par mois pour voir un peu les équipes. Je ne peux plus. Je suis tellement pleinement mobilisée sur ma commune. Je fais entre 70 et 80 heures par semaine. Donc voilà, je me suis organisée de manière à ce que je puisse regarder ça un petit peu de loin. Mais j'ai des équipes pleinement costaud, mobilisées.
Ouais, qui peuvent assurer. Oui. Et oui, c'est sûr que Villiers-le-Bel, c'est une ville de combien d'habitants?
À plus de 29 800 habitants. On est surclassé en ville de 40 000 habitants. Et je le dis souvent, nous investissons comme une ville de 60 000 habitants. Ah oui. J'ai 30 millions d'euros pratiquement chaque année nouveaux en investissement sur les opérations que nous menons à la ville. On investit beaucoup, beaucoup à Villiers-le-Bel.
Oui, ben on voit bien que vous êtes très active, hein, parce que moi je vous suis aussi sur les réseaux sociaux et je crois que vous avez un bon service communication dans la ville.
On a à qui je rends hommage, ils sont mobilisés, mais ce que je dis souvent, c'est que aussi c'est ce que moi je fais juste, je montre simplement ce que fait la ville. J'anime et encore je mets une action par jour. Si je devais retracer mes journées, c'est
vous feriez ça toute la journée.
C'est aussi ça Vous savez, nous, on a beaucoup souffert à une période de cette déficience, cette problématique de communication. Et aujourd'hui, c'est ce que je mets aussi en valeur, ce que font nos agents, à qui je rends aussi hommage, hein, parce que moi, je suis maire, je porte un peu tout ça. Mais les mains dans le cambouis au quotidien, c'est aussi les agents de la collectivité qui travaillent. Et puis, bien évidemment, avec toute l'équipe municipale.
Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les étudiants et nous savons que la jeunesse, l'éducation et le développement durable font partie précisément de vos priorités. Quelles actions concrètes avez-vous mises en place pour les jeunes de Villiers-le-Bel ?
Alors, pour les jeunes de Villiers-le-Bel, nous avons 2-3 dispositifs. Nous avons en premier lieu donc une bourse Bâtir son avenir pour des jeunes que ce soit pour un CAP par exemple, ils ont besoin d'aller sur une école pour acheter du petit matériel, celui qui veut aller être chef cuisinier par exemple, pour acheter sa toque, pour acheter sa batterie de cuisine. Donc on va jusqu'à 2 000 euros, et ça va aussi pour l'étudiant qui est à l'université, qui est dans des grandes écoles de commerce. Nous en avons régulièrement, la collectivité participe, donc on a une petite commission qui se réunit, élus et fonctionnaires, avec le jeune étudiant. Donc on va jusqu'à 2000 euros maximum par bourse. On a mis aussi en place ce qu'on appelle Mon été, mon permis. Donc on finance jusqu'à hauteur de 900 euros par jeune. Il nous donne en contrepartie, il donne 72 heures de bénévolat à la collectivité. C'est surtout l'été quand on fait des activités d'été. Donc ils viennent donner un petit coup de main aux équipes. Et puis d'une manière générale, on a aussi tout ce qu'on a sur les cités éducatives avec le concours de l'État. Donc après la classe, on intervient sur le volet culturel, sportif et du théâtre, de la musique. Et puis, d'une manière générale, tout ce qu'on fait sur le péri-éducatif aussi, on accompagne la classe après l'école. Donc, on a mis en place des dispositifs pour que les enfants puissent se retrouver avec des enseignants, avec des personnes formées pour une aide aux devoirs. Vraiment, je vous cite quelques exemples comme ça de ce que porte la ville en termes de politique jeunesse et tout ce qu'on fait. Beaucoup, beaucoup de nous, on a 3 centres sociaux qui sont très actifs au quotidien. Ça va de la scolarité, mais ça va aussi sur de l'animation. On forme aussi, on accompagne sur les BAFA. Les BAFA qui permettent très souvent aux jeunes de mettre le premier pied à l'étrier, un peu de formation. Ils sont formés, diplômés, et puis après, ils volent de leurs propres ailes.
À eux de voler de leurs propres ailes. Et est-ce que vous pouvez vous arriver à les associer à la transition écologique, qui est un vrai sujet aussi pour vous ?
Complètement. Parmi les actions, donc, on a créé un conseil citoyen de la jeunesse, et ce conseil citoyen, donc, on essaye de les amener. On a eu à refaire le parvis d'un collège, Martin Luther King, sur la commune. C'est ce conseil citoyen qui a porté cette action. On est beaucoup dans la revégétalisation des cours d'école. On investit chaque année, on est aux alentours de 250 000 euros d'investissement. Donc on refait, on crée des îlots de chaleur et on travaille aussi sur, je reviens encore à l'égalité filles-garçons, les jeux dans la cour d'école pour les filles et les garçons. Et ce groupe, du coup, revégétalisait le parvis du collège, et ça s'est fait avec le conseil citoyen. Et là, sur le parc agro-urbain, on est vraiment on va monter en charge sur la prochaine mandature.
C'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez du coup à gérer l'équilibre entre la rénovation urbaine et puis la préservation de l'identité de la ville.
Complètement. En fait, aujourd'hui, le parc agro-urbain est porté par la rénovation urbaine. On a été éligible sur un fonds d'innovation. Et tout cela, ça va de pair. Hein. Lorsqu'on construit, lorsqu'on innove rénovation urbaine chez nous, je parle sur les prochaines années, sur les 10 ans à venir, sur toute la ville, c'est 240 millions d'investissements. C'est énorme. L'ANRU, il est passé une fois, là, il repasse 2 fois. J'ai déjà écrit à la ministre pour dire si un ANRU 3, je le veux à Villiers-le-Bel, parce qu'on n'a pas fini. C'est une ville qui a beaucoup, depuis 2006, on a beaucoup investi. Et là, du coup, à travers le parc agro-urbain, on va remettre aussi de l'humain, ce qu'on souhaite. On a créé récemment un syndicat intercommunal avec la ville de Gonesse. Nous, on revient un peu, on revient en arrière. Beaucoup de villes externalisent des services, entre autres sur la restauration. Nous, on fait le pas inverse. Aujourd'hui, notre plein principal est externalisé, donc dans 4 ans, puisque la ville de Gonesse est liée à une délégation de services publics. Dans 4 ans, on transfère, moi ça y est, c'est déjà le cas sur la commune, donc le personnel, on le transfère à la restauration. L'objectif de ce parc agro-urbain, c'est de faire du maraîchage. On va lancer un appel d'offres à un moment donné à des maraîchers, pardon, et qui souhaitent s'implanter sur... qui souhaitent venir fabriquer, produire localement, et puis transformer et pour fournir notre future restauration collective avec la ville de Gonesse.
Alors, je vois David qui est tout oui, parce que je pense que David, on entre un peu dans votre domaine, quelque part, où vous pourriez peut-être apporter votre pierre à l'édifice de Villiers-le-Bel.
Oui, il y a beaucoup de sujets communs que je découvre en vous écoutant, en réalité. La boxe, c'est un sujet qu'on a en commun, l'environnement aussi, parce que mon épouse travaille dans cette dynamique-là, donc les oasis de fraîcheur, l'environnement, le maraîchage, des choses comme ça. Et effectivement, il y a des points communs aussi avec Imagency, puisque on fabrique de l'image, donc on regarde l'environnement tel qu'il est aujourd'hui. L'environnement, il peut être constitué de bâtiments. Donc nous, on intervient sur cette partie bâtimentaire, on intervient aussi sur la partie environnementale, à partir de drones, par exemple. Donc effectivement, il y a beaucoup de points communs.
Merci David pour cette précision. Madame Jida Jalali Teshtak, donc maire de Villiers-le-Bel, je vous propose une nouvelle pause et cette fois on écoute Jean-Jacques Goldman, C'est ta chance.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
L'économie en direct sur IDFM Radio se poursuit avec toujours à m'écouter Madame Djida Djalali-Teshtak, maire de Villiers-le-Bel, et David Molina, président de la société Imagency. Madame le maire, moi je suis très admirative hein, de tout ce que vous faites, du temps que vous passez pour gérer votre ville. Et pourtant, on a l'impression que vous voulez en faire plus encore. C'est un vrai leadership féminin, puisque vous avez exprimé le souhait d'assumer des responsabilités plus larges au niveau de l'agglomération. Alors, quels sont ces souhaits?
Alors, ces souhaits aujourd'hui, quand on regarde une intercommunalité, l'une des plus riches de France, 42 communes, sur le bureau qui administre hein, cette com d'agglo, qui est Roissy Pays de France, aujourd'hui, malheureusement, à mon grand désespoir, nous avons que 5 femmes sur l'exécutif. Le conseil communautaire est paritaire, mais malheureusement, voilà.
Sur un total de combien de personnes?
Je crois qu'on est 102 ou 103 conseillers communautaires, et dont le bureau exécutif, dans le bureau communautaire, nous avons de mémoire, je crois que c'est 5 femmes, dont 2-3 vice-présidentes, et c'est pas acceptable. Et très souvent, on va confier une délégation à la petite enfance aux femmes. On est encore là-dedans. Le souhait, donc, c'est ce que j'ai émis au président Pascal Dole, le président sortant. Je lui dis, pour la prochaine mandature, j'aimerais qu'il regarde ça de plus près, qu'il puisse trouver une équité. J'aimerais qu'il rende le bureau communautaire paritaire. C'est vraiment la demande que je lui fais. Et puis d'être aussi vigilant à ce qu'on ne confie pas l'éducation à la petite enfance aux femmes. On est capable de porter les questions des finances, les questions de l'aménagement, les questions d'urbanisme, les questions d'une manière générale aussi technique que les hommes. Hein, on est prêtes.
Oui. Et est-ce que votre message a été entendu?
Oui, parce qu'il en a fait écho jeudi en conférence des maires, ne serait-ce que le sujet de la petite enfance, qui aujourd'hui est une compétence intercommunale côté Seine-et-Marnais, parce qu'aujourd'hui nous avons une interco, je rappelle, hein, une partie sur la Seine-et-Marne, l'autre côté valdoisienne, et côté valdoisien, c'est les villes qui ont gardé la compétence. Donc on était un certain nombre de maires à lui proposer. Je crois que la demande, elle a été, il l'a entendu en tout cas, il va l'intégrer. Quand je parle de la petite enfance, c'est simplement, vous le savez, lorsqu'on n'a pas de place en crèche, hein, aujourd'hui, j'ai à peine un taux de couverture, de 22% sur ma commune, qui est totalement insuffisant. C'est les mamans qui s'arrêtent de travailler, c'est pas les papas.
C'est ça. Oui.
Donc c'est ce que je porte.
Oui, c'est ça. Créer des crèches, c'est surtout pour permettre aux mamans de pouvoir aller travailler.
D'aller travailler.
C'est le but. Madame le maire, donc toujours on est dans les projets futurs et votre vision. En mars 2026 auront lieu les élections municipales. Peut-on penser que vous souhaitez vous représenter ?
À ce stade, moi, je suis pleinement mobilisée au quotidien sur plein de projets, comme vous l'avez indiqué. Moi, je suis maire jusqu'au 22 mars. Après, on verra entre-temps ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je suis pleinement mobilisée au quotidien auprès des habitants.
Très bien, parce que j'imagine qu'on a parlé des projets phares qui ont été mis en place, mais vous en avez sûrement plein d'autres en tête.
Ma tête, je suis quelqu'un d'hyperactif, donc ça ne s'arrête jamais. Il faut me suivre. Hein. il faut me suivre. Ça ne s'arrête jamais, oui. Je le disais, Villiers-le-Bel, à juste titre, c'est un laboratoire. On n'arrête jamais, vraiment. On a plein de projets qui nous engagent sur les 10 ans. C'est la transformation de notre ville, vraiment. Elle est déjà pleinement engagée et je souhaite continuer à mobiliser les services.
À la développer aussi
auprès de notre jeunesse et pas que. C'est vraiment parler aux petits d'aujourd'hui qui seront les jeunes de demain.
Alors, nous nous sommes dit en off, pendant la pause, qu'on disait donc que Villiers-le-Bel, c'est un laboratoire citoyen. Est-ce que vous rappelez-nous ce que vous nous avez dit, qu'on vient visiter Villiers-le-Bel pour voir vos installations?
Ah oui, donc le jeudi 25 septembre dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir une délégation de maires qui souhaitent investir dans les Cours Oasis. Courvoisie. Donc nous, on est accompagné par le CAUE pour le mettre en place. Donc c'est des îlots de chaleur, hein. Donc on, au niveau des cours d'école, et je le dis aussi, hein, on est très attentif aussi à ce que ces cours d'école soient aussi pour les filles et les garçons. Mais on reçoit régulièrement des délégations, et de mémoire, c'était il y a 2 ans, je crois, on a reçu une délégation japonaise pour nos éco-quartiers. Oui. Et ça, ce sont que deux anecdotes.
C'est une belle reconnaissance.
Oui, parce qu'on est vraiment... on va toujours, vous savez, vers des projets innovants sur notre commune. Et on en est... Moi, aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté avec les collègues, parce que je porte pas ça... Aujourd'hui, je suis devant vous, mais c'est toute une équipe aussi. Et puis, je rends toujours hommage à ceux qui étaient là avant. Il faut jamais oublier tout cela.
Alors, Madame le maire, vous aviez souhaité aussi parler de la dette financière, alors peut-être nationale. En tant que chef d'entreprise et maire, vous avez une double expertise, hein, vous, sur les enjeux économiques. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire sur ces...
Alors, en tant que maire aujourd'hui, d'aller incriminer et dire que les collectivités contribuent au trou de la dette, très franchement, c'est pas acceptable. Venir faire peur aux Français au quotidien, nous parler de la dette financière, mais on oublie au fait juste la dette écologique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en plein dedans. Le dérèglement climatique, la canicule. La dette écologique qui aujourd'hui personne est capable de la chiffrer, et puis j'aurais tendance à rajouter aussi la dette écologique, la dette sociale. Oui. Plus de 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un agent communal le 15 du mois n'a plus rien dans son frigo, lorsque le 15 du mois il bascule sur des crédits, et qui va la traiter cette dette sociale si on n'investit pas aujourd'hui sur les Français? On va pas s'en sortir. Aujourd'hui, il faut pas s'étonner que l'extrême droite fasse son électorat sur cette pauvreté sociale, parce que moi, je continue à dire oui, il y a clairement un climat xénophobe qui est dans notre pays, qui est installé, mais il y a aussi la pauvreté qui fait que les Français aujourd'hui se tournent vers cette extrême droite. Moi, aujourd'hui, c'est un vrai combat. Donc, pour revenir, c'est l'écologie. Qu'est-ce qu'on fait, l'écologie? Qu'est-ce qu'on va laisser aujourd'hui? On est là, on va laisser une dette à nos enfants déjà écologique, et on leur laisse une terre qui est bien, bien déjà abîmée. Et la dette sociale. Moi, je suis sur
oui,
ces.
On comprend que vous êtes votre trait de personnalité. D'ailleurs, je crois le plus révélateur est votre proximité, hein, avec les habitants. Et comment cette empathie se traduit-elle dans votre gestion?
Cette empathie, moi, je me suis engagée en disant je serai. Moi, je l'ai toujours été, hein, depuis toujours. J'ai toujours été très proche des habitants. J'ai bien évidemment dans la journée, je suis. J'ai plein de réunions, j'ai plein de copiles parce que les projets doivent avancer. Mais à côté, je fais des permanences. Je reçois les habitants à leur demande. Donc j'ai une liste, hein, d'attente jusqu'à la fin de l'année. Mais tous les mois, je fais une permanence toute une après-midi où je reçois pour discuter des questions de logement. Mais pas que, des questions, les personnes qui souhaitent me poser des questions sur ma fonction de maire et faire connaissance. Et puis, je suis pleinement mobilisée aussi auprès des associations au quotidien.
Très bien, très bien. Alors, vous avez... on a compris que vous étiez pour l'égalité homme-femme, hein, j'y reviens. Si vous aviez un message à adresser aux femmes qui hésitent à s'engager en politique, que leur diriez-vous en vous appuyant sur votre propre parcours?
Alors, je le dis souvent aux jeunes filles, c'est engagez-vous, soyez ambitieuses. Le mot ambition aujourd'hui, c'est pas un vilain mot. L'ambition, ça permet aussi d'avoir une vraie vision stratégique. Engagez-vous, mon parcours doit parler à d'autres. Chef d'entreprise, mon seul regret aujourd'hui dans mon parcours, je le dis souvent, c'est que j'ai pas, en tant que femme, j'ai pas vu mon fils. Moi, j'ai un seul enfant, mon fils a 26 ans aujourd'hui. Je l'ai pas beaucoup vu, beaucoup de soirées à l'extérieur. C'est mon seul regret, mais j'en suis en même temps très fière. C'est ma grande fierté aussi d'avoir avoir un fils comme lui, je leur dis souvent, engagez-vous, on ne viendra pas vous chercher. Engagez-vous, soyez ambitieuse et n'ayez peur de rien. Aujourd'hui, rien n'est infranchissable.
Et vous avez exprimé le souhait que les hommes voient les femmes telles qu'elles sont. Vous arrivez, vous, à faire avancer cette cause au sein de votre commune ?
Oui, au sein de la commune, on arrive, nous, on déconstruit en permanence, dans nos instants et au-delà. Je suis très, très, j'ai un regard très particulier lorsqu'il faut installer une instance, lorsqu'il faut, sur un syndicat par exemple, on fait très attention à ce qu'il y ait des femmes et des hommes, parce que c'est comme ça aussi, si on veut, on parlait d'égalité, si on veut construire, moi je suis convaincue, une société plus solidaire et plus juste, il faut aussi offrir à ces femmes, à ces jeunes filles. Moi, je m'adresse souvent aux jeunes filles. Je parle souvent aux collégiennes. N'ayez pas peur. Engagez-vous. Je ne dis pas toujours en politique. On peut aussi s'engager en politique, mais on peut aussi s'engager dans le milieu associatif. C'est une forme aussi d'investissement, de militantisme.
Très bien. Merci infiniment, Madame la maire. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu vous poser, que je n'ai pas posée, à laquelle vous auriez aimé répondre ?
J'aurais aimé répondre, c'est moi je voudrais vraiment laisser un regard d'optimisme. Aujourd'hui le climat national est pas réjouissant, on a tendance à faire peur à nos populations. Je leur dis oui, il faut se retrousser les manches, il faut être solidaire,
restons optimistes, hein.
Moi c'est vraiment ma note, c'est rester optimiste, parce que on fait plein de belles choses au quotidien. Moi je le vois sur ma commune et d'une manière générale, on est sur un très beau pays, rien n'est acquis, rien n'est facile, mais il faut rester positive.
On baisse la tête et on continue d'avancer.
Exactement.
Merci infiniment pour votre engagement sans faille en faveur de Villers-le-Bel. On sent que votre vision et votre énergie sont une inspiration pour tous ceux qui croient en un avenir meilleur pour notre territoire. Merci infiniment.
Merci pour votre invitation, très belle journée.
Merci. Allez, on prend encore 3 minutes pour écouter cette fois un best de Louise Attaque, Je t'emmène au vent.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes.
écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous écoutez l'économie en direct sur IDFM Radio, votre rendez-vous pour comprendre les enjeux qui façonnent notre monde. Merci de nous faire confiance. Avec à mes côtés, Madame Jida Jalali Teshtak, maire de Villiers-le-Bel, et David Molina, président de la société Emergency. Alors David, merci d'être à nouveau dans les studios de IDFM Radio. Je vous propose de vous présenter à nouveau parce que je suis sûre que nos auditrices et auditeurs ont besoin de faire un petit flashback par rapport à votre parcours.
Bonjour, donc effectivement, en quelques mots, donc je dirige une société qui s'appelle Emergency, qui est située à Herblay, donc purement dans le Val d'Oise. C'est une société que j'ai créée il y a une petite dizaine d'années maintenant. Moi j'ai un parcours qui est un peu atypique, puisque je suis informaticien de formation, et j'ai travaillé très longtemps dans une multinationale, à gérer des très très gros projets internationaux, et donc envie de voir autre chose après 20 ans d'une grosse société comme celle-ci, et donc de démarrer une histoire, un parcours, un chemin à titre personnel à travers cette entreprise.
Alors oui, Emergency se positionne à la croisée de l'imagerie avancée, de la formation immersive et de la modélisation 3D. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer précisément cette entreprise?
Alors moi j'ai une dimension technique, donc ça c'est déjà un premier élément, puisque je suis ingénieur de formation, et puis la partie imagerie aujourd'hui est un élément clé dans l'environnement dans lequel on vit, que ça soit de l'imagerie de communication, hein, Madame le maire en parlait très très bien avant. L'imagerie c'est aussi un outil aujourd'hui, un outil qui peut être technique, donc l'outil technique que moi je mets en avant dans le cadre de nos prestations sont des outils techniques qui peuvent aider les personnes qui travaillent sur la rénovation de bâtiments, qui peuvent travailler sur tout ce qui est inspection de bâtiments, d'infrastructures. Donc ça, on est vraiment dans le domaine technique au sens bâtimentaire du terme, au sens voirie du terme. Et on a d'autres dimensions qui sont liées à l'écologie, hein, puisque je fais partie d'un petit consortium qui s'appelle Sentinel, AILES à la fin. D'accord. Ah oui, d'accord. Le lien entre l'imagerie aérienne et l'environnement. Et donc, dans cette autre activité, Sentinel, on essaie de conjuguer l'imagerie, ce que peut apporter l'imagerie pour l'environnement. Et donc, je peux travailler aussi bien pour l'agriculture, pour des cours oasis, des éléments de ce type-là, en apportant à la fois une captation d'image technique et à la fois du conseil sur la partie environnementale, puisqu'on est deux associés dans cette structure, et donc on apporte des solutions, on va dire, presque clés en main, mais sur de l'analyse technique, qui peuvent servir ensuite à des bureaux d'études pour mettre en place des solutions pérennes et répondant complètement à des souhaits politiques. Voilà, vous voyez, on a plein de points communs.
Oui, plein de messages.
Bien reçu, David.
Et David, quand il y a quelques années, quand toutes ces nouvelles technologies sont arrivées sur le marché, vous deviez être il devait y avoir une certaine excitation, non?
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut avoir en tête parfois, c'est que, alors moi je travaillais dans la partie recherche et développement, mais il y a maintenant 25 ans, et il y a des sujets qui à l'époque étaient des sujets de recherche fondamentale, sur quoi j'ai travaillé au moment de ma thèse, et qu'on voit aujourd'hui qui s'appliquent au quotidien, parce que l'informatique a suffisamment de puissance maintenant pour pouvoir gérer d'énormes quantités de données, et les temps de calcul sont aussi très diminués, ce qui permet de répondre dans des délais relativement courts à des problématiques. On voit aujourd'hui des calculs pour connaître la météo, par exemple, on a beaucoup plus de finesse dans la météorologie, à des fois à quelques heures près, qu'on pouvait l'avoir il y a 20 ans. Mmh. Et donc, ces technologies émergentes, il y a une vingtaine d'années, sont aujourd'hui matures, celles qu'on utilise, que ce soit du drone ou de l'imagerie technique, du scanner laser, etc., permettent aujourd'hui de répondre à des cas d'utilisation du quotidien pour d'autres sociétés, pour des collectivités, pour l'environnement, pour des sujets qui sont aujourd'hui complètement demandeurs de solutions rapides et techniques précises.
Oui, et je crois d'ailleurs que une des valeurs ajoutées de Emergency, c'est que on parle donc de souveraineté technologique, hein, un enjeu majeur pour la France. Vous contribuez à réduire la dépendance aux solutions étrangères?
On s'efforce aujourd'hui, il faut aussi que les, la partie matérielle soit portée par des entreprises françaises. Ça, ça reste encore quelque chose qui est compliqué. On a quelques licornes en France qui commencent à sortir des solutions techniques appropriées. Aujourd'hui, je pense que la France a eu quand même une démarche depuis de nombreuses années sur le développement du service et peut-être pas assez de l'industrie. Donc aujourd'hui, on peut s'appuyer sur des solutions technologiques plutôt étrangères, mais avec une manière de l'utiliser française. Et donc, tout ce qui est service derrière, archivage, etc., sont français. Par contre, il y a beaucoup de composants qui ne viennent pas forcément de France, des composants électroniques, comme tout le monde le sait. Ça vaut pour notre voiture, ça vaut pour nos éléments techniques, ça vaut peut-être même pour votre radio, hein, les ordinateurs, quand ils viennent de l'étranger, ben, on utilise ce qui est fabriqué et ce qui est pertinent pour, en termes d'outils par rapport à nos besoins.
Voilà. Très bien. Alors, votre entreprise utilise des technologies très pointues, donc je vais vous laisser nous les décrire parce que je suis pas du tout une pro. Il y a le scan 3D LIDAR, il y a les visites virtuelles, vous en avez parlé, les captations drones, RVB, thermique, multispectral. Expliquez-nous un peu tout ça.
Alors, pour faire, je veux dire, simple, en tout cas pour vulgariser l'approche, une des offres les plus connues, c'est la visite virtuelle. Aujourd'hui, on a tous vu des visites virtuelles, entre autres pendant l'époque du Covid, pour visiter un appartement, une maison, en disant, tiens, comment aller ? On se promène dans la maison virtuellement, d'accord ? Donc ça, ce sont des visites virtuelles. On fait ça, j'ai fait ça à une époque pour l'immobilier, mais aujourd'hui, je fais ça plutôt pour des entreprises qui n'ont pas de showroom et qui veulent soit effectivement présenter un showroom virtuel, d'accord. Ça peut être aussi pour des musées qui à un moment donné ont une exposition temporaire. On peut archiver cette exposition et du coup l'exposition devient pérenne. Et donc les citoyens peuvent consulter sur un site régulièrement le contenu de ce qui a été présenté dans le musée. Ça, ce sont les visites virtuelles. On le visualise, on le matérialise
tous. On en est un peu plus informé aujourd'hui.
Voilà.
Oui.
Après, une des technologies qui s'est beaucoup développée ces dernières années et que nous on met en pratique aussi depuis de nombreuses années, c'est le drone. Alors le drone, on a tous à l'esprit les images que l'on voit à télévision, un drone qui tourne autour d'un champ, d'une église, d'un village, dont les racines et des ailes, on voit ça, on a tous ça, et on trouve à chaque fois les vues merveilleuses, parce qu'on a une vue du ciel, et voir les choses du ciel, ça apporte quand même beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Et nous, les drones, effectivement, on a des drones qui peuvent faire de l'imagerie technique, c'est-à-dire qu'ils sont équipés de caméras particulières, donc ces caméras avec des mots un peu sauvages, hein, caméra thermique, donc là, tout le monde à peu près, thermique égale chaleur. Voilà. Et puis on a des caméras multispectrales qui, elles, vont pouvoir regarder la qualité de la végétation. Donc, par exemple, avec une caméra multispectrale en drone, on peut passer au-dessus d'un champ, compter automatiquement le nombre de salades, dire ces salades-là, elles manquent d'azote, celles-ci, elles manquent d'eau. Je peux passer au-dessus des vignes, faire une analyse de la vigne, savoir si les vignes sont touchées par des maladies, des choses comme ça. Là, j'ai récemment travaillé avec une société, une start-up à Rennes, qui, vous avez entendu parler de la loi du plomb ?
Oui.
Voilà, la loi du plomb, entre autres, les néonicotinoïdes, qui pose problème potentiellement pour la santé, et je crois que c'est plutôt avéré, hein, quand je dis potentiellement, c'est un sujet de société. Et ben, cette société avec laquelle j'ai travaillé ont inventé une alternative. Ils jettent des petites billes qui vont se désagréger dans le champ et qui libèrent une odeur. Et cette odeur, elle va faire s'éloigner les pucerons qui amènent la jaunisse de la betterave. D'accord ? Le virus de la jaunisse de la betterave. Et en passant en drone, moi je fais une analyse complète du champ. Et je suis capable de dire, à cet endroit-là, voici le taux de betteraves qui sont atteintes de la jaunisse de la betterave. Voici le taux de jaunisse de la betterave à cet endroit-là, etc. Et donc, du coup, ils mesurent la qualité de leurs résultats. Et on est vraiment dans de la R&D. Et le drone multispectral permet de faire une analyse pour ce qu'on appelle la micro-agriculture. Et on est capable de donner de l'information à pied, traverser un champ sur plusieurs hectares, on peut pas le faire. Alors que là, l'analyse multispectrale, si vous voulez, c'est comme ce qu'on peut faire avec des satellites, sauf qu'on le fait à 30 mètres de haut, et donc du coup, on a un niveau de précision qui est vraiment décuplé.
Ça, c'est juste une question par rapport à ça. Donc, ça doit avoir un coût, forcément, ce genre d'exploration, mais peut-être que l'agriculteur s'y retrouve parce que c'est votre exploration contre la perte peut-être de sa récolte.
Quand on voit aujourd'hui les taux depuis 2021 de pertes dans la récolte de la betterave, là moi je travaille avec une société qui proposera un produit sur le marché, donc qui a déjà été qualifié par l'INRAE il y a un an, le produit, parce que ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. L'INRAE a dit ok, maintenant on développe ce produit, on va passer à des plus grandes échelles en termes de tests. L'enjeu il est pour la société française, hein, puisqu'elle est à Rennes, hein, de développer ce produit. Le coût, c'est pas signifiant. Le coût d'un vol de drone, c'est quelques milliers d'euros avec l'analyse, etc. derrière. Les enjeux sont nationaux, oui, voire énorme. Peut-être mondiaux pour cette société. Donc les enjeux, c'est epsilonesque à côté de l'enjeu français sur le sujet. Donc ce sont des technologies qui, de prime abord, parce qu'elles ne sont pas connues, donne l'impression de dire, oh là, ça doit être très très cher,
c'est ça,
etc.
C'est pour ça que
mais
je...
quand on ramène l'enjeu derrière et on regarde l'investissement, il n'est pas très important. On fait aussi de l'analyse de bâtiments en drone, de la même manière. Faire venir quelqu'un pour faire un métré d'une toiture, la personne va prendre son échelle, va venir avec son camion, etc. Nous, on passe en drone, on fait une analyse en 10 minutes.
Et c'est d'autant plus précis.
Donc, et c'est d'autant plus précis. Sur des panneaux photovoltaïques, je suis capable d'identifier combien de petites cellules sont défectueuses sur des centaines de mètres carrés de panneaux solaires.
Merci, merci. C'est important que vous précisiez ça, David. Je vous ai coupé la parole, du coup.
Et puis donc, une des nouveautés depuis quelques mois, c'est qu'effectivement, on nous demandait beaucoup de choses vues du ciel. Donc, y compris de la modélisation, c'est-à-dire vous voyez un modèle 3D d'un bâtiment, d'un champ, des choses comme ça. Et donc on a investi dans du matériel qui nous permet de faire beaucoup de choses au sol maintenant. Donc on a ce qu'on appelle un scanner LIDAR. C'est une sorte de grosse boîte, comme une boîte à chaussures, d'accord, qui va envoyer des rayons laser dans une pièce et qui va être capable de savoir à quelle distance sont les murs, par exemple. Et donc à partir d'un scanner comme celui-ci, on est capable de refabriquer des plans complets d'un bâtiment en 3D. Donc ce sont les plans des murs, mais ce sont aussi tous les plans de tout ce qui est réseau, donc les réseaux d'eau, les réseaux d'évacuation, de la climatisation, tous les réseaux. Donc on peut travailler avec des sociétés dans l'industrie, on peut travailler avec des sociétés qui ont besoin juste de faire des plans de voirie, d'accord. Donc on passe avec des scanners dans la rue, on passe avec, comme les voitures de Google, vous voyez, on connaît tout ça, mais on fabrique des modèles comme ça pour des choses qui sont moins globales comme les routes, mais par contre beaucoup plus localisées sur des bâtiments, sur des champs, sur de la topo, sur des choses comme la topographie, c'est le fait d'avoir de l'information sur le relief. Et donc ça complète complètement notre offre, puisqu'à la fois on a des vues du ciel, on a des vues intérieures, techniques avec ce genre de laser, on est à la précision de quelques millimètres, vraiment c'est vraiment de la haute technologie, ce sont des matériels qui valent très très cher, et on peut fournir donc du coup à des personnes qui ont besoin de faire des études très précise, à un relevé de l'existant de manière très précise.
Et quels sont vos clients? Quelle est la cible de vos clients, alors, du coup?
Alors, on couvre quand même une grande gamme de clients. Vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais d'une start-up qui fait de la recherche, la R&D sur l'agriculture. Aujourd'hui, les clients sur la partie plus drone ou la partie scanner sont les bureaux d'études, les architectes, les personnes qui font de la voirie. J'ai travaillé avec le Grand Paris. Par exemple, on a scanné un énorme entonnement. Un entonnement, c'est un grand tunnel sous la gare Haussmann-Saint-Lazare qui a été construit il y a quelques années, qui a été mis en service l'année dernière. Et on a participé depuis 2 ans à la modélisation de ce qui a été réalisé et on va dire un suivi de travaux. Donc ça peut être des sociétés comme celle-ci. On fait de l'image aussi sur la partie, ce qu'on appelle des time-lapse, donc des vidéos accélérées. Donc on peut suivre des chantiers sur plusieurs trimestres, semestres. On a eu l'occasion de travailler avec un très très grand acteur de la gestion des déchets, d'accord, dont le nom commence par P.
Oui, qui est très connu.
Et donc on a fait des suites de leur mise en place de nouveaux centres de tri, par exemple, des choses comme ça, des suites de chantiers pour des changements d'incinérateurs, donc avec plein de vols en drone, pour que les équipes techniques puissent à la fois avoir de l'information qu'ils n'avaient pas vue du sol, et par ailleurs pour les services communication, parce que du coup ils pouvaient communiquer sur les travaux qu'ils faisaient au sein de leur entreprise.
Très bien.
Donc ça, du petit jusqu'au très très gros.
Vous travaillez aussi pour la transition écologique, forcément.
Ah, je baigne dedans tous les jours.
Tous les jours. Merci David, l'interview n'est pas terminée. Je vous propose qu'on écoute un peu de musique avec cette fois De Palmas, Une seule vie.
Savoir personne ne s'évade. Oh, il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède. Je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède. Je n'ai qu'une seule vie. Voilà ce qui est devenu ma vie. Oh, 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 il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède. Je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède. Je n'ai qu'une seule vie.
FM, 98 FM.
Nous voici de retour et nous enchaînons avec David Molina, qui est mon deuxième invité après avoir écouté Madame Djida Tejtak, maire de Villiers-le-Bel. David, en fait, votre communication, c'est rendre visible l'invisible, c'est ça ?
Je pense que oui, il y a rendre l'invisible visible et donner une hauteur sur les choses. Donc, c'est pas forcément qu'une image par rapport au drone, c'est avoir une vision d'ensemble sur des éléments. Donc, ça, c'est assez important parce qu'on n'a pas forcément des visions d'ensemble. On peut faire l'analyse de grandes surfaces, par exemple, vues autrement. Mmh. Donc, soit à travers une imagerie qui est différente, soit d'un point de vue qui est différent. Donc, oui, c'est bien, quelque part, d'une certaine manière, rendre les choses invisibles, visibles.
Et donc, on a bien compris que vous pourriez, par exemple, apporter vos services à une collectivité comme Villiers-le-Bel, peut-être pour rendre sur des projets de rénovation urbaine ou transition écologique, Madame le maire.
Absolument. Et en plus, la fierté, c'est une entreprise valdoisienne.
Oui. Made in 95.
Oui. On fait en sorte aussi d'avoir ce regard très valdoisien et en faire clairement la promotion. Si on peut aider une société valdoisienne, pourquoi pas?
Oui, très bien. Merci, Madame le maire. David, vous faites aussi de la formation en immersif et sur mesure, c'est ça ?
Alors, on fabrique des outils. Alors, je reviens quelques secondes sur les visites virtuelles dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
D'accord ? Les visites virtuelles, elles peuvent avoir une vocation d'outils de formation. D'accord ? Dans une visite virtuelle, on peut donner plein d'informations sur des éléments. Exemple, on a fait un travail assez intéressant avec Triaction. Triaction, c'est le syndicat de déchets de l'agglo de Herblay. Enfin, un petit peu différent de l'agglo, mais à peu près. C'était la poursuite d'un déchet qu'on met dans une poubelle jaune. L'idée, c'était de suivre ce déchet et de regarder comment il allait ensuite de la déchetterie au centre de tri, comment il était trié par des machines automatiques, comment il était trié par des êtres humains qui, in fine, finissent le tri. Ça, il faut le savoir, c'est important. C'est-à-dire, quand vous jetez une couche de bébé dans une mauvaise poubelle, c'est un être humain derrière qui va faire le tri final. Oui. Et donc, du coup, on a envoyé le suivi du déchet comme ça, jusqu'au moment où il se retrouvait en ballot. Donc, un ballot à 1 mètre cube. Soit de l'aluminium, soit du carton, du papier, des plastiques, des bouteilles de plastique, etc. Donc, le genre de visite virtuelle, on a fait ça avec Triaction. Et la cible pour Triaction, c'était de pouvoir mettre cette visite virtuelle dans les écoles au niveau des CM2. Et donc, les élèves pouvaient voir tout le parcours d'un déchet et à la fin, ils avaient un questionnaire. Et ce questionnaire permettait d'avoir un petit certificat en disant, ben voilà, j'ai compris comment un déchet vivait. Et quand ils répondent au questionnaire, à la fin, ils ont leur petit certificat. Voilà, ça c'est important. Donc ça c'est quand même assez ludique, on est sur des enfants, on est sur un sujet de l'environnement
concret,
encore, vous voyez, et donc c'est concret. Et on peut aussi travailler avec des sociétés qui ont des sujets, par exemple, en zone dangereuse, d'accord ? Donc en zone ce qu'on appelle ATEX, qui sont par exemple des zones explosives ou choses comme ça. Plutôt que d'envoyer des personnels se former dans des zones dangereuses, on modélise nous d'abord la zone dangereuse, et ensuite les personnels peuvent se former sans forcément se mettre en exposition. Vous voyez, typiquement, centrale nucléaire, bah, on va pas envoyer des personnes à l'intérieur de la centrale nucléaire tout le temps pour regarder des choses. Bien évidemment, il y a des sujets de sécurité. Mais d'avoir l'environnement modélisé, les personnes peuvent se rendre à l'intérieur, imaginer ce qu'ils ont comme travaux à faire dedans, prendre les cotes, etc. Et ensuite, ils peuvent derrière, c'est en ça que j'appelle formation. C'est-à-dire, ça peut être un outil de découverte virtuelle, mais en même temps, si on y met derrière des questionnaires, etc., on peut apprendre à les personnes quelque chose et derrière ces personnes peuvent valider leur savoir à travers ce type d'outils.
Alors en vous écoutant, je comprends que vous pouvez être dans des milieux sensibles. Est-ce que vous avez besoin d'autorisation, d'agrément pour être actif?
À chaque fois, chantier a un peu ses spécificités. Quand on a dû travailler effectivement sous 35 mètres sous terre, sous la gare Haussmann-Saint-Lazare, avec les trains qui passent, etc. Suivant l'étape du chantier, on a d'abord eu des habilitations pour descendre en sous-sol, parce que les consignes d'évacuation ne sont pas les mêmes en cas d'incendie, etc. Mmh. Ensuite, quand on travaille avec les voies ferrées, il faut des certificats avec la SNCF, avec tous les dangers qu'on peut trouver sur un chantier de type SNCF. Les trains sont bien évidemment ne circulent pas quand on intervient, nous, parce qu'on doit se mettre au milieu des voies, mais pour autant, il y a quand même de l'électricité, il y a quand même des choses qui peuvent être dangereuses. Un mauvais pas, on n'est jamais à l'abri de tomber. Donc tous ces éléments nécessitent des formations, des habilitations, des certificats d'intervention sur
les
différents chantiers.
Pour les drones aussi?
Oui. Alors les drones, il y a une réglementation nationale qui est suivie par la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, qui nous oblige en tant qu'exploitant drone de faire des demandes pour pouvoir voler en drone suivant les zones. Donc si on est proche d'un aéroport, ça devient compliqué parce qu'on doit pas, effectivement, la priorité est au vol habité. Si on est en campagne, c'est beaucoup plus simple. Donc oui, il y a énormément de réglementations derrière. On fait le nécessaire pour respecter ces réglementations, faire les demandes d'autorisation. Donc un chantier de scan d'image, quand il est technique, aérien et autres, nécessite un travail préparatoire. Ce qui peut justifier le coût d'une certaine manière, mais on n'est pas sur des centaines de milliers d'euros, ni sur des dizaines de milliers d'euros en fonction des tailles de chantier, je vous rassure.
David, comment on a le sentiment que la technologie est un peu arrivée à son point d'orgue. Comment vous voyez l'évolution des métiers de l'imagerie et de la modélisation 3D dans un contexte où les enjeux écologiques et sociaux deviennent centraux?
Alors, il y a deux dimensions à votre question. Il y a en quoi la technologie, comment la technologie va évoluer aujourd'hui? Oui. On entend tous les jours parler de l'intelligence artificielle.
Oui.
Donc, si on prend quelqu'un qui dessine aujourd'hui des plans d'une maison, d'accord, avec un crayon, avec un ordinateur, etc., demain, il faut se dire qu'avec des nuages de points comme nous, on fabrique, qui sont une captation 3D d'un environnement, le plan, il va être fait automatiquement. Les métiers vont changer. Le dessinateur sera plus quelqu'un qui va contrôler. Parce que les IA font aussi des bêtises, faut pas se tromper, Moi, je le vois au quotidien.
Il faut
contrôler ce qui est. Donc, oui, la technologie évolue. Elle va évoluer fortement et rapidement, entre autres, grâce à l'IA. D'accord. Et après, sur des sujets environnementaux, là, on est sur les technologies qui vont apporter un service à l'environnement dans lequel on travaille. Ça va permettre d'avancer plus vite sur des projets. Ça permet d'avoir une analyse plus pertinente des données de base, d'accord. Tout à l'heure, je parlais des champs, des choses comme ça. Et ça va permettre de poser souvent les problématiques mieux que ce qu'on a souvent en tête. On se dit, mais je pense que ça marche comme ça. Non. Là, on a une vraie analyse technique. On sait que ça marche comme ça.
Et alors, quelle est votre vision pour Imagency à moyen terme? On a compris que vous étiez dans la Smart City, la gestion des risques. Est-ce qu'il y a un secteur que vous avez envie de prioriser?
Écoutez, on a quand même des outils qui peuvent répondre à beaucoup de problématiques autour de l'image. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai investi dans un très très gros scanner. Ça viendra mais consolider notre flotte de scanners et de drones. On dispose de 5 drones aussi, donc on a une capacité d'intervenir avec des caméras particulières sur chacun des drones. Je renforce l'équipe aussi, on a une embauche qui arrive sur la partie développement commercial et sur la partie environnementale, donc on a quand même, on va dire, en cible de pouvoir mélanger ces outils techniques avec la partie rénovation, amélioration de l'environnement. On parlait tout à l'heure des îlots de fraîcheur, des choses comme ça. Donc du coup, c'est en quoi ces outils peuvent apporter dans des cas d'utilisation des réponses à des besoins, entre autres liés à l'environnement. La personne qui va rejoindre l'entreprise est quand même avec un profil très très environnemental. Et donc du coup, on va essayer de conjuguer, à travers Sentinel, dont je parlais tout à l'heure, on va essayer de conjuguer ces deux, à la fois un outil et à la fois l'expérience des évolutions environnementales. Voilà.
Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune entrepreneur souhaitant aller dans votre direction, quel serait-il ?
Alors, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la citation de Madame le maire sur l'ambition n'est pas un vilain mot. Donc déjà, c'est d'avoir de l'ambition, d'accord ? Ensuite, il n'y a pas de secret non plus, il faut se former. D'accord, il faut se former parce qu'on est sur des sujets
amateur dans ce domaine.
C'est des sujets voilà qui sont techniques. Donc quand on prend un marteau, on peut faire plein de choses avec un marteau. On peut fabriquer une maison et on peut faire des bêtises avec un marteau. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut casser des carreaux, d'accord ? Et donc l'outil, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et pour ça, la formation, c'est très important. Donc avoir l'ambition de développer une activité, c'est merveilleux. Maîtriser ses outils, c'est bien. Savoir aussi prendre la dimension du client, c'est un élément clé. Parce qu'il faut savoir,
bien sûr.
Il faut comprendre les enjeux pour un client. Il faut comprendre ses besoins. Ce qui, parfois, sont un peu différents. Des fois, on nous dit, oh, on aimerait telle chose. Mais si on ne comprend pas l'enjeu derrière pour la personne, on peut répondre. Et même elle peut penser qu'avec l'outil ou le résultat qu'on va lui fournir, elle aura ses solutions. Mais non. Donc, du coup, de bien comprendre, d'être capable de discuter en amont avec un prospect sur la compréhension de ses besoins, c'est presque aussi important que de maîtriser son outil. On ne peut pas juste maîtriser un outil technique. Un projet, et j'en ai géré beaucoup quand j'allais dans une autre vie, c'est du début de la compréhension du besoin jusqu'au livrable et le suivi.
Bien sûr,
et donc
bien sûr.
Du coup, quand on est jeune et qu'on veut se lancer, il faut juste avoir en tête que c'est la totalité de cette chaîne de valeur qu'il faut avoir à l'esprit. On peut la répartir sur plusieurs personnes, mais il faut avoir cette vision de l'ensemble de la chaîne de valeur.
David, une dernière question. Professionnellement, donc, vous souhaiteriez entrer en relation avec un certain type d'acteurs. Quels sont-ils ?
Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, des bureaux d'études, d'accord, les architectes avec lesquels on travaille beaucoup sur la partie voirie, des grandes sociétés de construction, hein, clairement, font partie de nos cibles. Les collectivités, bien évidemment, qui sont aussi des acteurs de terrain au quotidien, qui ont des besoins. On parle des lois autour des bâtiments, hein, toute la partie énergétique, la meilleure gestion énergétique des bâtiments. C'est des sujets sur lesquels on peut répondre aussi à travers, avec des bureaux d'études, à travers nos expériences. Voilà, c'est, on va dire de manière synthétique, mais vous voyez, avec l'agriculture, on est capable de travailler. Oui. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin de l'image technique pour mener un projet, qui soit en phase de réflexion, qui soit en phase de cadrage, avec un vrai bureau d'études à ce moment-là qui peut apporter ses compétences sur la partie, entre autres, réglementaire, sur tel ou tel sujet. Et puis, dans le suivi aussi, parce qu'on peut faire de l'image pour faire de la communication, donc du suivi de chantier, quel qu'il soit, pour valoriser les travaux qui ont été demandés par les sociétés avec lesquelles je travaille, ou les collectivités.
Très bien, merci beaucoup. On retiendra cette volonté d'élargir comme ça votre champ d'action. Et je voudrais citer le fait que vous avez participé comme professionnel au jury de thèse imagerie pour CY, c'est ça ?
Alors oui, j'ai la chance d'avoir pu rencontrer quelques professeurs à l'université de Cergy-Pontoise, CY. Et donc, je vais participer en tant que jury à une thèse qui aura lieu en décembre.
Croyais que c'était fait déjà.
Non, c'est en cours. Là, on est en phase de finalisation de la partie rédactionnelle de sa thèse et nous de relecture avec quelques personnes. Je travaille avec l'agglomération de Cergy aussi sur le sujet. Et donc, du coup, la thèse porte sur la classification automatique de l'environnement du Val-d'Oise. Entre autres sur la partie de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc la classification, c'est on regarde des images satellites et on va classer le type de bâtiment haut, bas, les voitures, la partie, tout ce qui peut se passer sur le territoire, et la thèse porte sur cette partie-là.
Très bien, voilà. Merci infiniment David Molina pour cet échange passionnant. Votre approche alliant précision technique, créativité et engagement territorial montre que l'innovation peut être un puissant levier pour répondre aux défis des villes et des entreprises. Merci à vous.
Merci.
Alors l'émission est presque terminée, mais on a une petite tradition chez IDFM Radio, enfin en tout cas dans l'économie en direct, c'est que je redonne la parole à mes invités pour un mot de conclusion avant de nous quitter. Donc David, je vous redonne la parole pour ce petit mot de conclusion.
Alors, ce qui est très important finalement aujourd'hui, on le voit, c'est la rencontre des personnes.
Oui.
Là, je viens de rencontrer Madame le maire de Villiers-le-Bel. On se rend compte qu'en parlant, en étant simplement des êtres humains, d'accord. Donc là, on s'éloigne de l'IA, hein, tant mieux,
oui,
des fois.
Oui, oui.
Voilà, en étant simplement des êtres humains, on se rend compte qu'on a des parcours qui ont parfois des similitudes, parfois des différences, mais en tout cas, ça enchante du dialogue. Et je crois que le dialogue, de manière générale, et c'est vrai pour la partie, on va dire, entrepreneuriale, mais c'est vrai aussi pour la partie sociale, pour la partie environnementale, il faut que nous parlions tous ensemble. Et vous voyez, c'est pas une leçon pour l'Assemblée nationale, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est un sujet aujourd'hui qui a tendance à disparaître, à pas être mis en valeur parce que les téléphones, chacun est sur son téléphone dans la rue, etc. Donc j'appelle aussi les jeunes qui nous écoutent à penser que communiquer de manière humaine avec des êtres vivants en face de nous, à dialoguer, à débattre, c'est quelque chose qui fait la vie, quoi.
Vous avez raison de dire ça parce que moi j'ai rencontré Madame Techtac sur le salon Effervescence et je peux dire que c'est un coup de cœur. Voilà, je vous ai interviewé quelques minutes, mais voilà, et c'est vrai que cette rencontre, l'humain doit rester vraiment la priorité. Merci David. Madame le maire de Villiers-le-Bel, chère Gida, un mot de conclusion.
Effectivement, je partage ce qui vient d'être dit. Moi, c'est ma force aujourd'hui, vraiment l'humain, c'est de pouvoir échanger. Si on veut vraiment, même dans les conflits, hein, on arrive toujours un petit peu à trouver sens et surtout à donner de l'espoir. Aujourd'hui, on est dans une société fracturée. Comment on redonne de l'espoir? Moi, c'est vraiment en étant tous les jours sur le terrain. Moi, ce que j'ai ma petite phrase, c'est de dire aujourd'hui, une dette financière, elle peut se rembourser. Par contre, une société fracturée, une société détruite, elle ne se rembourse pas. C'est cela qu'on doit prendre en compte, c'est cela qu'on doit travailler. Et puis avec de très belles rencontres, ravi également David d'avoir partagé cette émission avec vous. Et c'est comme ça, moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, c'est ces parcours, ces réseaux. Moi je fais beaucoup de réseaux, c'est comme ça qu'on arrive.
C'est important. Merci infiniment.
Merci.
Merci d'avoir partagé votre temps ce matin avec nous et de votre parcours très inspirant. Merci Madame le maire.
Merci, avec plaisir.
Merci à nos auditrices et auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou idées sur des sujets via nos réseaux. Merci Francky pour la technique. Retrouvez le podcast de l'émission sur le site idfm98.fr et si cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la relayer autour de vous. Rendez-vous pour un nouveau numéro de l'économie en direct mardi prochain à 9h30. Belle journée et excellent week-end.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
IDFM Radio, 98 FM.
Tout est mute, en silence. Tes notifs, mon amour et ton âge. Tout est mute, plus un bruit. Tes appels, mes souvenirs en images. J'ai changé de route. C'est sûrement mieux comme ça, sans doute. Tout est mute, aucun souffle, ton absence, tes messages, tout est mute. On a retrouvé le calme, dans ce silence, moi j'ai mal. Plus de bruit assourdissant, juste un bruit blanc. Tout est mute, comme une pause infinale, et ça s'éteint. Mute, je n'entends rien. Tes excuses, ton amour et ma rage. Tout est mute, plus de son. Les rumeurs, la musique, ton visage. J'ai changé de route. C'est sûrement mieux comme ça, sans doute. Tout est mute, pas d'éclat. Ton regard, c'est sauvage. Tout est mute. On a retrouvé le calme. Dans ce silence, moi j'ai mal. Plus de bruit assourdissant, juste un bruit blanc. Tout est mute, comme une pause infinale. Et ça s'étale bien trop longtemps. Plus de bruit assourdissant, juste un bruit blanc.
Wild nights, not getting it quite right yet. You're all alone, sat inside an egg chair, hoping for a friend or just someone to stay near. Instantly we knew we'd known each other before. You've been my brother, my mother, and my lover. Then I'm quite I bled the ringtone go.
Now I know how perfectly we fit together.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous donne rendez-vous tous les samedis dès 16h sur IDFM Radio avec Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture pour parler des artistes et des spectacles à l'affiche.